Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolo Orsi.
Le paddock RMC, c'est ton podcast Formule 1 préféré sur toutes les applis de téléchargement et sur rmc.fr. C'est tous les lundis. Aujourd'hui, on débriefe la 18e manche du championnat du monde Grand Prix de Singapour. Il ne reste plus que combien de courses?
6.
Voilà, exactement.
Deux il est en pleine.
Alors je peux vous dire que vous l'avez entendu avant tout le monde, il est en pleine forme. Il sort de chez le docteur, il est plein badin, notre Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Eh ben salut à tous.
Tu tournes aussi bien que la McLaren toi en ce moment.
Eh ben écoute, moi je prends des tours et je fais le même bruit que les V10, alors tu vois, tout le monde peut être content.
Les ingénieurs du paddock RMC qui complètent le casting du jour, Arnaud Valadon et Louis Gerbier, salut les gars.
Salut à tous.
Salut les gars.
Bon, on va débriefer ce Grand Prix de Singapour, on le disait, qui n'était pas le plus excitant de la saison. On va se le dire comme ça. Mais il y a un homme qui entretient le suspense, qui a encore de l'espoir, c'est Lando Norris, qui s'est imposé devant Max Verstappen et qui grappille unité après unité. En tout cas, il est toujours dans le coup pour rêver d'un titre de champion du monde. Et puis, il s'est passé quand même plein de choses, même si c'est vrai que c'était peut-être un peu moins spectaculaire que ces dernières semaines lors de cette course qu'on va débriefer tout de suite. Allez, c'est parti dans le paddock RMC.
Très bon départ pour Lando Norris. Verstappen va essayer de bloquer derrière Hamilton. Oui, c'est passé très fin, mais dans l'enchaînement, il a réussi à conserver son avantage.
Magnifique domination de l'équipe McLaren. Bon, on s'y attendait, hein. C'était l'homme fort depuis le début des essais libres. Donc, dans son challenge qui est de rattraper Verstappen, là, il va lui reprendre, puisqu'il n'a pas le meilleur tour, Verstappen non plus, il va lui reprendre 7 points exactement. 25 points pour Norris, 18 points pour Verstappen.
Ah oui, qui a réalisé le meilleur temps finalement?
C'est Ricardo, dis donc.
Ricardo!
It's real sweat. Sweat, baby.
Ki. Sweat, sweat.
Merci à toi. Un grand bisou. Et je t'aime.
Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.
Oh, mais on est triste. Daniel, c'est sa dernière course, probablement. Ah, ça fait de la peine, hein. Sur du James Blunt comme ça, nous quitter comme ça.
Là, Ricardo, tu nous arraches une larme, là, ça y est.
Là, c'est terrible. Bon, on va donner le classement avant de se plonger dans ce débrief, les gars. Lando Norris, 3e victoire en carrière sur sa McLaren, qui a été bien plus fort que tout le monde, hein. Il s'est imposé avec plus de 20 secondes d'avance sur son rival au championnat, Max Verstappen. Et ça, Red Bull, Oscar Piastri sur McLaren complète le podium. George Russell est 4e. Charles Leclerc, qui partait 9e sur la grille, termine 5e. Ça a été un des animateurs de cette course. Lewis Hamilton 6e, Carlos Sainz 7e, Fernando Alonso 8e sur Aston Martin. Nico Hülkenberg prend des points à la 9e place sur sa Haas et Sergio Perez qui est au fond du saut 10e. Voilà pour le top 10. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Esteban Ocon est 13e, Pierre Gasly 17e et puis donc Daniel Ricciardo qui a été un des animateurs de la course aussi 18e pour ce qui s'apparente à son dernier Grand Prix en Formule 1. Au classement des pilotes, ce qui nous intéresse tous, c'est les entre Max Verstappen et Lando Norris, 52 points désormais séparent les deux hommes. Norris qui revient, qui grappille, là il a pris 7 points ce week-end, c'est pas assez, mais malgré tout il met la pression sur Verstappen. Charles Leclerc est toujours 3e, Piastri 4e, et puis au classement des constructeurs il y a un vrai gap, hein, maintenant qui est en train de se créer entre McLaren et Red Bull. 516 points pour McLaren, 475 pour Red Bull. Je vous laisse compter, ça fait 41 points.
On avait dit pas les maths le lundi, Nico.
Ouais, c'est ça, c'est pour ça j'essaie de limiter, mais bon, je me l'étais noté dans la marche là, comme ça j'avais pas le calcul à faire de tête. Jean-Luc, oui. L'info principale de cette course, c'est que Lando Norris, il entretient l'espoir tout simplement, hein.
Eh bien écoute, il a fait le boulot. Alors là, il a fait le week-end imparable, impeccable. On l'avait vu dès les essais libres qu'il était très rapide, que la McLaren évidemment était à l'aise, que a priori Lando l'était un petit peu moins. Donc, Oscar l'était un petit peu moins. Donc, il est parti devant. Et cette fois, il a réussi à déjouer le signe indien. On rappelle que sur 7 départs en Formule 1, y compris les deux en sprint, eh bien, jamais il n'avait bouclé le premier tour en tête. Là, il l'a fait et de manière magnifique, malgré les efforts de Verstappen. Bon, il n'y avait pas de gros espoir, hormis au départ, hein. Je pense que c'est là que ça pouvait se jouer. Maintenant, je ne sais pas combien de tours Norris aurait mis pour dépasser vraiment Verstappen, parce qu'on était dans un autre registre. Il a survolé la course. Magnifique, il fait le boulot. Maintenant, je vais vous poser, on n'a dit pas de maths le lundi, mais c'est simple. 6 x 9 ?
Oh là là,
53.
54. Donc, 6 x 9, 54. Et combien de points d'écart ? 52, il vient de nous le dire. Donc, si jamais Lando parvient, c'est une moyenne, hein, sur les 6 derniers Grands Prix à reprendre 9 points par week-end, j'insiste parce qu'il y a les courses sprint, il peut faire le boulot.
J'ai un autre calcul, tout parce qu'en fait, je m'étais dit, si Verstappen fait systématiquement 2 et Norris 1, 6 fois 7, Jean-Luc.
Celle-là, je l'ai, les gars. Celle-là, je l'ai.
52 points et ça suffit pas. Et je pense que c'est peut-être là la clé. C'est que Max, il score quand même s'il a une voiture moins performante.
Ouais, mais est-ce qu'il fera deuxième à toutes les courses? Franchement, Max, j'en suis pas sûr.
C'est très théorique, Nico. C'est juste pour rigoler. Parce que, après, comme on l'a dit et redit, il peut y avoir quand même pour l'un ou l'autre. Ou l'un et l'autre des problèmes mécaniques, parce qu'on est quand même dans les 6 derniers Grands Prix, donc être obligé de changer après les essais, donc se retrouver en fond de grille. Et là, bon, hormis pour Lando qui va remonter comme une balle, mais Verstappen a compris que là il avait du mal à se refaire, et puis bah, un accrochage on le souhaite jamais, donc si tu veux, si l'un ou l'autre, ou encore une fois l'un et l'autre ne marquent pas une ou deux fois, bon, c'est un calcul théorique, voilà.
Exactement. Bah, on va l'écouter, Lando Norris, tiens, au micro de nos confrères de Canal+, à la fin de la course.
J'ai très bien géré les pneus et la voiture était rapide. C'était quand même plus compliqué avec les hards. J'ai beaucoup touché parce que j'ai beaucoup attaqué. D'avoir cet écart avec Max m'a beaucoup aidé pour la deuxième moitié de course.
C'est une victoire importante, moi, je trouve, Louis, pour Lando Norris, parce que Jean-Luc le disait quand même. Il coche des cases, Grand Prix après Grand Prix. Là, il y a cette histoire du premier virage aussi qui met derrière lui. Il y a le fait qu'il domine largement, qu'il fait son premier gros week-end vraiment plein, voilà, où il assume son statut de favori. Et ça, pour la suite de la saison, ça peut vraiment compter.
Ouais, tu sais, on a souvent parlé ici de Lando Norris en disant que justement, il avait du mal à maximiser. Là, pour le coup, ça commence à progresser de son côté à ce niveau-là. Et sur ce week-end-là, s'il n'y a pas une collusion de deux équipes pour lui enlever le point du meilleur tour, on y reviendra sûrement, c'est un grand chelem pour Norris et c'est hyper solide. Ça finit 20 secondes devant et surtout, Piastri derrière cette fois. Contrairement cet été, Piastri était presque passé devant même, je dirais, à un certain moment dans la saison. Et là, c'est plus le cas du tout. Et là, Norris, ça devient très, très solide. Et bon, 52 points avec les courses sprint. On a envie d'y croire au moins, on sait qu'on va kiffer, comme on dit, la fin de saison.
Ça peut jouer au dernier Grand Prix, vraiment.
Ouais.
Ça, c'est grâce à l'aileron, les gars. Hein.
Ouais.
Ah bah oui. McLaren, non.
Non, mais ce qui est dingue quand même sur la course de Norris, c'est que tu as son premier relais incroyable. Il mettait une seconde au tour à Verstappen. Ouais. Et après, il y a son changement où il met les hards, où il vient lécher un moment avec son aileron. On s'est dit, oula.
C'est passé trèfle.
Ah, ouais. On est au millimètre près. Mais
il touche deux fois le mur. Hein. Deux fois le mur. Hein.
Ouais. Tu mets pas la main entre le pneu où il vaut mieux pas la main.
Non. Le rail. Hein. Le rythme était juste incroyable. Ça devenait hallucinant la façon dont les McLaren et surtout Norris avançaient sur ce Grand Prix. C'est vrai que c'est peut-être un peu la déception. Je crois que c'est la première fois qu'il n'y a pas eu une safety car à Singapour. D'habitude, il y en a toujours une.
Ce qui a peut-être... 14 premières éditions, il y avait eu ou VSC ou SC.
Voilà,
ou
ce qui a peut-être contribué un peu à l'ennui sur ce Grand Prix, parce que la caméra n'était pas tout le temps fixée sur Leclerc, qui a fait une deuxième fin de course
très belle
exceptionnelle.
Remontée.
On voit les rythmes, le pace était incroyable de Charles Leclerc pour remonter. Faut pas l'oublier, Charles Leclerc. Hein. Il est troisième.
Ouais, il n'est pas en dehors du coup. Hein.
Il est qu'à 24 points de Norris. Mmh. Parce qu'on parle de Norris pour la première place.
Et Piastri a 8 points de Leclerc. Donc si on va par là, ils sont 4. Ah bah oui.
Et Zou,
on va se faire plaisir. Qui ça?
Non, mais par contre, les gars, je rigolais avec cette histoire d'aileron là. Mais Jean-Luc, tu vas quand même nous rappeler un peu ce qui s'est passé.
Ouais.
On sent que McLaren est désormais l'écurie la plus forte du plateau. Et donc, du coup, on essaie de s'attaquer au McLaren. C'est la Formule 1 moderne, j'ai envie de te dire.
Mais mon Nico, même ancienne, je peux vous dire, parce que des histoires comme ça, je peux vous en raconter, puisqu'on a 2 heures, je peux vous en raconter jusqu'à demain. Il y en a toujours eu. Bon, les plus énormes, ce sont les billes de plomb dans les ravitaillements des Tyrell. Vous n'avez pas connu ça dans les années 80. C'était le dernier écurie avec des moteurs V8. Tous les autres avaient des turbos. Et pour compenser, bah, ils n'étaient pas au poids, bien sûr. Et donc, bah, pour les remettre au poids lors du dernier ravitaillement, on remarquait que les mécanos, ils avaient du mal à soutenir le truc. Pourtant, il y avait 20 ou 25 litres. Bah oui, mais il y avait 50 kilos de plomb ou je ne sais pas combien. Ils foutaient ça dans les réservoirs et du coup, ils étaient bons. C'est pour vous dire que c'est long. Alors là, je résume mon Nico, en fait, il y a deux débats. Il y a un sur les moustaches avant. Et là, je ne sais pas si vous avez regardé comme moi, mais avec les cams embarqués qui étaient positionnés, on voyait très bien que l'aileron de la McLaren, il s'efface beaucoup plus que ceux des autres, mais vraiment beaucoup plus. En tout cas, beaucoup plus que ceux des Ferrari et de Red Bull. Parce qu'on parle de Red Bull qui est mauvais perdant, mais il faut parler de Ferrari aussi. Parce que Fred Vasseur a suivi exactement les patins de Red Bull, ou plutôt les deux sont d'accord. Ceux des Mercedes, ils sont entre les deux, pour être clair. C'est-à-dire, ils plient moins que ceux de la McLaren, mais plus que ceux des Red Bull, vraiment. Donc si tu veux, on joue avec le règlement. Là, à mon avis, une interprétation délicate. Bon, la FIA a dit c'est bon, plutôt que d'emmerder Verstappen avec fuck, tiens, ça y est, je l'ai dit.
Oh,
donc on pourrait bien s'occuper des ailerons. Puis le deuxième problème. Tu m'as demandé, mon Nico, je te réponds. Rapide.
C'est ouais, l'aileron, vas-y, on a le temps.
Arrière,
hein.
L'aileron arrière, puisqu'on a constaté que la vitesse de pointe des McLaren, notamment lors du dernier Grand Prix, était effarante à Bakou, et que Charles s'en est plaint gentiment en disant « je ne peux pas le rattraper, même avec le DRS et même à l'ESPI ». Donc, ils sont hyper rapides en ligne droite. Et là, avec la caméra embarquée, aussi, on a bien vu qu'il y avait, on va dire, un semi-DRS qui rajoutait encore de l'effacement de l'aileron arrière. Donc, il gagnait encore 5-7 bornes en plus. Voilà. Donc, la question, elle est là. Donc, McLaren a dit « Ah, ok, on est conforme, mais allez, on va se remettre comme les autres. On est beaux joueurs.
Bon, » Oui, puis ils vont légiférer. Ils vont remettre la petite ligne dans le règlement technique hiver. Et c'est, c'est souvent comme ça.
Et pour te dire, mon Nico, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire une écurie qui domine. Avant, tu avais Red Bull. Je peux te dire qu'ils sont tous arrachés pour essayer de savoir pourquoi Verstappen était devant et pourquoi les Red Bull étaient devant. Avant, c'était les Mercedes, au changement de règlement à partir de 2014. Avant encore, c'était les Red Bull. Enfin, je ne vais pas remonter à Mathusalem qui n'a pas roulé en Formule 1. Mais même à l'époque de Fangio, il y avait des trucs comme ça. Donc voilà, donc c'est le jeu. La Formule 1, c'est hyper technique. Et ceux qui ne gagnent pas, ils essaient de voir si par hasard, il n'y a pas un petit truc à gratter quelque part.
Vous savez quoi, je vais faire ça là. Pour la fin de la saison, on va se faire un système d'amende comme la FIA. À chaque gros mot là, on va sanctionner les ingénieurs du
bon,
paddock.
Je prends 10 balles, j'ai un crédit.
Non, mais le problème, c'est pas tellement de sanctionner Jean-Luc, c'est s'il se vexe, c'est qu'il nous fait des réponses de 5 secondes. Parce que c'est ça maintenant. Hein.
Ouais.
Ah, c'est vrai que pour tenir une heure, ça peut être compliqué, en effet. Arnaud, sur Norris, il t'a impressionné là, vraiment sur cette course là, parce que le sang-froid qu'il a dégagé. Autant sur la course d'avant, la semaine dernière, on s'interrogeait un petit peu après sa qualif, est-ce qu'il a les épaules. Là, tu sens que le mec, il a quand même réagi en champion. On avait un peu des questions sur sa capacité à gérer la pression. Là, pour le coup, il a répondu à tout le monde, quoi.
Oui, mais il m'avait tellement déçu avant. C'est pour ça que souvent, je disais, est-ce qu'il met tous les ingrédients pour nous montrer qu'il est un pilote pouvant être champion du monde. Là, tu vois sa course aujourd'hui, ça rattrape ses quelques erreurs. Mais encore une fois, quand il vient lécher les barrières, il est peut-être à ça de ne plus être du tout dans la course. Absolument. Pour être champion du monde. Parce que là, il est quand même, on dit on y croit, à Austin dans 3 semaines. Attends, j'ai noté la date. Oui, en octobre.
4 même. Hein,
avec
même, un trou de 4.
Avec la course sprint, ça serait une course sprint à Austin. S'il va à un moment dans le gravier ou autre, on sait que c'est fini. Ouais. Il ne doit absolument pas faire d'erreur, alors que Max a, avec ses 52 points, encore un petit peu de marge.
Il
mais
peut gérer.
L'agacement de Verstappen, j'ai l'impression que c'est peut-être en train de changer de camp, où Norris a été hyper solide, vous l'avez dit, a fait un week-end complet, et on voit un Verstappen avec le F-word en conférence de presse, on dit je vais peut-être quitter la F1. On sent quand même un agacement chez Max, le départ évidemment d'Adrian Newey, parce que je pense que c'est un gros checker, le cocktail là il est quand même très explosif chez Red Bull.
Je pense que ça dépendra du titre, je l'ai déjà dit, mais je pense que où il a le titre, auquel cas, si tu veux, tout va bien quand même.
J'ai raison.
Ça dépend dans quelles conditions, mais auquel cas. Et puis, je pense que c'est une menace, si tu veux. C'est parce que là, on l'a agacé avec des bêtises. On en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. C'est pas très important.
Mais... On peut en parler tout de suite, d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette scène. Non, mais Jean-Luc, quand même, cette scène, cette conférence de presse, elle est marrante. Donc, en gros, Verstappen, qui est sanctionné à faire des. Il doit faire des travaux d'intérêt général par la FIA parce qu'il a utilisé le mot fuck.
En qualifiant sa voiture.
Oui, en plus, dans la radio. Dans la radio, d'abord. Alors après, on lui a reposé les questions. Donc, il l'a dit.
Il l'a répété en conférence.
Non, mais c'est lamentable. Écoute, comme il a dit, on n'a pas 5-6 ans. Quoi. Ils ont que ça à foutre à la FIA d'emmerder les pilotes parce qu'ils disent des gros mots. Ils ont
toi, t'as déjà pris 20 balles là. En une phrase, t'as pris 20 balles. Là.
Ils ont qu'à emmerder les journalistes, ça fait 30. Non, mais il y a un moment, attends, c'est grotesque. Ils n'ont que ça à faire.
Mais on sent une américanisation parce que c'est typiquement américain de ne pas dire le F-word.
Je suis complètement d'accord.
On sent qu'Arnaud est fauché, il dit F-word, il ne veut pas payer.
Regarde dans Netflix cette fameuse série qui a soi-disant démocratisé la Formule 1. Bon, auprès de ceux qui la connaissaient pas, évidemment. Bah, là, t'as des gros mots partout.
Ah bah oui,
donc, je veux dire,
partout.
Je suis désolé.
Et puis, Gunther Steiner.
Il fait ça. Donc, c'est un vrai monde maintenant, d'ailleurs. Non, mais il dit des gros mots. Parce
moi, j'ai l'impression que c'est typiquement, tu sens une organisation avec des Américains à la clé où on dit pas ce genre de choses.
Je crois même pas que final, c'est ça. C'est juste notre ami Ben Sulayem qui essaie d'exister d'une manière ou d'une autre. Donc, il choisit des moyens dérisoires, stupides et ridicules.
La rigueur, on fait un rappel à l'ordre en lui disant. on dit pas ce genre, mais de là le sanctionner.
Non, non,
mais
c'est exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est la conférence d'après.
Ah ouais.
Où Verstappen, il est super marrant, il répond par oui ou par non. Il réfléchit à chaque début de réponse. Tu te dis, il va balancer un scud et il fait un truc. Mais
et dit, vous allez me poser la question en privé derrière.
Il leur répond à la sortie en plus. Et c'est, non, et il c'est... les prend pour des guignols.
Exactement. Et du coup, franchement, ça décrédibilise totalement la décision de la FIA. Et c'est vraiment très drôle. Mais à part ça, Louis, c'est vrai que sur son week-end, bah tiens, on va peut-être l'écouter avant de te questionner, Max Verstappen, sur sa sensation après sa deuxième place.
Je veux toujours gagner, mais aujourd'hui ce n'était pas réaliste. Être deuxième, c'est déjà un bon résultat pour nous, et le travail s'est fait en qualification en étant P2. Ça m'a aidé, sachant que Piastri était rapide. Mais si nous voulons gagner le championnat, il va falloir retrouver du rythme.
Ouais, Louis, il est lucide, hein, Verstappen. Voilà, il sait que maintenant, désormais, la victoire, c'est plus pour lui. Chaque week-end, je vise la deuxième place. C'est quand même fou de dire ça maintenant, mais c'est ça, c'est le cas. Et tu sens que ce que Arnaud disait tout à l'heure, c'est vrai, quoi. Il y a une petite pointe d'agacement, quand même, chez Verstappen. Hein.
Bah oui, on en parlait lors du dernier podcast. Ce qui lui arrive, quand même, c'est dur, quoi. Quand t'as gagné pendant 2 ans, vraiment, c'était une hégémonie incroyable. Donc, je pense que dans la tête, c'est compliqué. Mais ce que j'avais dit, et cette fois, je crois que je tiens le bon bout sur mon premier pari, peut-être faire un pari juste dans cette saison, c'est qu'il va y arriver quand même à son titre de champion du monde, parce qu'il est hyper solide, hyper solide, et qu'il lâchera pas de points. On l'avait dit la semaine dernière, c'est sa voiture qui pourra lui en faire lâcher, mais lui il va tous les points qu'il pourra prendre, il va les prendre. Il l'a encore prouvé hier. Il fait une course, enfin même plus qu'une course, un week-end, parce que ça commence
les qualifs, c'est beau. Hein.
Ah ouais, ouais.
Il se déchire, là.
Il fait des miracles. Ah. Moi, j'ai l'impression que c'est même des miracles. Ouais. Quand tu vois Pérez, oui, voilà. Il est certes d'un niveau moindre.
T'as le niveau de la caisse avec Pérez.
Mais voilà. C'est pas le Pérez d'il y a quelques mois. Il est quand même un peu revenu. Bah, il est revenu avec Arnaud.
Mais tu vois, il fait pas un top 5, il fait pas un top 6, Pérez. Alors bon, il y a l'accrochage à Bakou, évidemment. Mais oui, Pérez, on peut toujours le critiquer. On sait que ça reste un pilote correct,
ouais,
bon,
c'est un bon pilote.
Voilà.
C'est un bon pilote.
Mais évidemment, peut-être que la place de cette voiture, c'est cinquième. C'est derrière Ferrari, derrière McLaren, peut-être les Mercedes. Voilà. Et je trouve que Max fait des miracles, tout simplement. Et s'il arrache ce titre, et je pense, mon intime conviction, c'est qu'il sera champion du monde.
Je pense
que les constructeurs, là, McLaren a mis quand même un gros coup. Je regardais les points. 41 points d'écart, hein, 516 à 475. Alors, ça peut aller vite, évidemment, avec vos deux pilotes, mais ils ont tellement de pilotes qui scorent que je pense que ça va être fait pour le titre constructeur pour McLaren, mais Max, il va aller le chercher à l'arraché, et comme le disait Jean-Luc, voir la façon dont ça va se passer cet hiver, parce que ça va laisser clairement des traces.
Ça, c'est clair.
Entre le foin hors air au début de saison, le départ de Newey, la voiture qui perd totalement les pédales, presque, ils ne savent plus comment la gérer. On a l'impression que c'est Mercedes il y a un ou deux ans, tu vois. Ils ne savent plus quoi faire.
Même les pit stops deviennent mauvais.
Ils annoncent quand même, Jean-Luc, des évolutions pour Austin. Mais c'est la première fois qu'on entend Verstappen dire on souffre d'une dégradation des pneus qui est terrible dans le premier relais. Tu l'entends tenir des discours qui était inimaginable il y a encore 3-4 mois.
Ah, absolument. Bah, jusqu'en Espagne, tout allait bien. Hein. On rappelle quand même qu'il avait gagné de mémoire, là aussi, 7 Grands Prix sur les 10 premiers, donc c'est quand même énorme. Et puis là, la machine a commencé à s'enrayer. Après, si vous vous rappelez, il y a eu quelques Grands Prix qui étaient un petit peu épiques. Alors, moi, je me souviens bien de celui d'Imola, quand même, en Italie, où il a gagné, mais il avait Lando Norris derrière, vous vous rappelez, pendant un paquet de tours. Et là, c'est vraiment lui qui avait sauvé la victoire. Après, il y en a eu plusieurs où, normalement, ils auraient dû gagner McLaren, mais ils sont pris un peu les pieds dans le tapis. Lando, pas assez tranchant non plus. Enfin, il y a eu plusieurs choses. L'accrochage de la Hongrie, normalement, c'était pour Lando aussi. Hein. Je dirais, sur la performance, c'était pour lui normalement. Bon, donc ça veut dire que, je répète, moi, à mon avis, c'est pas Red Bull qui s'est raté, c'est les autres qui ont plus progressé. C'est toujours pareil.
C'est un peu des deux.
Bien sûr, la Formule 1, c'est ça. Je pense pas qu'il soit devenu moins rapide, Red Bull, mais les autres ont tellement progressé, notamment évidemment McLaren, mais même Mercedes. Alors, en sinusoïdal, Mercedes.
Oui.
Parce que ce qui est étonnant, c'est d'entendre Lewis à la fin du vendredi, après la F1, la F2, qui dit « On est nulle part, je sais pas ce qui se passe, on va peut-être même pas être en Q3 », et paf, il monopolise la deuxième ligne. C'est étonnant de voir que même les pilotes, eux, et les équipes, ne savent pas ce qui va leur arriver disait pendant les qualifs, pendant le Grand Prix. Et rappelez-vous aussi, c'est Verstappen, au dernier Grand Prix, il va aussi vite en Q2 qu'en Q3, c'est du jamais vu ça. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un os quelque part. Ça, jamais, normalement, ils améliorent tous, évidemment, puisque là, ils se lâchent.
Ils lâchent les cartographies.
Ils lâchent tout. Donc, c'est imprévisible. Alors, je veux bien que nous, on prenne la boule de cristal et puis on essaie de faire des pronostics, mais quand eux, ils n'y arrivent pas, on n'a pas démérité quand on s'est planté. Voilà, c'est tout.
Tiens, un petit mot sur les Mercedes, tant qu'on en parle un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils font 3 et 4 en qualif. Jean-Luc le disait, sur la deuxième ligne, Arnaud. Et par contre, en course, ils n'arrivent pas à... Et puis, on a vu, ils n'arrivent pas à maximiser leur perte du samedi. Puis, on les a vus, mais sortir de la voiture, les deux, là, ils étaient totalement rôtis. Ils n'ont même pas pu parler aux médias tout de suite à la fin du Grand Prix. Ils étaient lessivés.
C'est vrai qu'en plus Singapour c'est très humide là-bas, on est pas loin de l'équateur entre les tropiques, c'est de nuit, on sait aussi que tu peux pas t'hydrater énormément, hein. T'as pas 3 litres d'eau pour t'hydrater, donc effectivement c'est très exténuant et ouais, les Mercedes, j'ai l'impression que bon voilà, on attend la fin, Lewis va partir, on a Georges qui est là, qui est l'avenir, c'est la fin de règne quoi.
Qui est peut-être l'avenir.
Il y a un petit problème de stratégie aussi pour Hamilton dans
ouais,
qui a fait débat.
Moi je voulais parler de ça sur les softs, tu fais les softs, tu vois que ça fonctionne, pourquoi tu coupes si court, c'est dommage, faut aller au bout de ton truc quoi. Moi j'ai vraiment pas compris quand tu vois la suite de la course en plus.
Raconte-nous Louis ce qui s'est passé.
Tout simplement, tu pars en soft, tu fais un pari, tu es au départ, Singapour, ce que vous disiez messieurs en début de podcast, c'est au départ que ça se joue souvent. Après, il prend les softs et il s'avère que ceux qui sont sur d'autres composants roule pas mieux que lui, il dégrade pas tant que ça, il a pas le fameux drop dont on parle souvent sur les softs où d'un coup en un tour et demi tu t'effondres, il l'a pas et ils le font rentrer un peu
18e tour.
Ouais, c'est ça, 18e tour. Enfin, c'est trop tôt quoi, tes pneus fonctionnent, pourquoi tu rentres?
Et surtout, on le plombe pour le deuxième stint, évidemment, puisque tous les autres s'arrêtent. Alors là, Norris au 31e, Verstappen au 31e, Russell au 28e, enfin, etc. Donc, on voit bien Piastri au 39e, qu'effectivement, il va ramer sur la fin du relais, évident, et c'est ce qui se passe. Alors, si vous voulez, je vous ressors ma botte secrète que vous aimez bien. C'est les temps autour en course. Non, mais sérieux, parce que là, ça explique tout. Alors, ça ne va pas vous étonner. Donc, le meilleur, Daniel Ricciardo, on va y revenir certainement. Mais autrement, Norris survole en 1:34.925. Derrière Verstappen, et on voit bien qu'il ne peut rien y faire, il est à une seconde sur son meilleur tour, 1:35.967. C'est un gouffre quand même en course, une seconde. Derrière Piastri, lui aussi il est rapide, alors un peu moins que Norris, mais 1:35.745. Ensuite, on a, écoutez bien, 1:37.047 pour la Mercedes. Là, c'est un vrai gouffre, hein, sincèrement. Là, c'est vraiment par rapport au McLaren, et donc on va le voir même par rapport au Ferrari. Charles, 1:35.371. Donc, en clair, les Mercedes en course, nulle part. À l'ouest, puisque Lewis, pareil, meilleur tour, 1:37.393. Donc, ça veut dire que...
J'ai un trou de mémoire, ils lui mettent quoi après les softs? C'est des hards ou c'est...
Ils lui mettent les hards.
Magnussen,
ça marchait pas quoi.
Magnussen, je crois, qui est le premier à chausser les hards. On a vu que c'était une véritable catastrophe. Et t'as Ferrari, je crois qu'il faut rentrer Sainz aussi pour lui mettre les hards. On dit, mais ça a pas l'air d'être fou les hards.
Et Sainz au 14e tour, c'était très tôt également. Il est parti en médium, ils lui mettent les hards. C'est après, tu sais, ils ont pas eu beaucoup de capacité apparemment à faire des longues runs surtout. C'est ce qu'ils ont un peu dit. Hein. Ils ont été un peu frustrés. Et puis la course et la piste évoluent énormément là-bas. C'est ça le problème. Elle est pas constante. Et il est tombé des trompes d'eau le samedi soir, ça a lavé tout, donc ça a viré la gomme, la couche de gomme, et voilà.
Tu es toujours dans l'attente potentielle, tu dis qu'il va y avoir une safety car, et tout, en 14 ans, il y en a toujours une. Tu as toujours ce plan B, on a vu à la radio, plan B, plan C.
Et comme vous le savez, comme on n'a pas le droit de toucher au réglage des voitures entre les qualifs, c'est presque antinomique, c'est fait pour ça. Hein. C'est-à-dire, les qualifs sur un tour, faudrait régler d'une certaine manière. Et évidemment, les longues runs et la course, faudrait régler autrement. Mais t'as pas le droit d'y toucher. Donc, quelque part, ou tu fais un compromis sur la qualif en te disant « je vais être un peu moins rapide sur un tour, mais je risque d'être beaucoup mieux sur la course », ou alors tu donnes tout pour les qualifs, et probablement, t'es à côté de la plaque, ce qui était le cas des Mercedes. Hein. On a l'illustration. Voilà.
On va parler de Charles Leclerc maintenant, les gars, qui a fait une super course. Arnaud, t'en parlais tout à l'heure. Hein. Alors, il y avait une vraie déception après le samedi, après la qualif. 9e et 10e. Leclerc 9e et Sainz 10e sur la grille. Charles Leclerc arrive à entrer dans le top 5. Et ça, c'est quand même fort. Et surtout, quand t'es Ferrari à la fin du week-end, tu peux nourrir beaucoup de regrets, Louis, parce qu'ils allaient vite. Ils allaient vite en course, ils avaient un vrai rythme.
Bah ouais, bah Ferrari, des regrets, c'est souvent quoi. C'est souvent cette année. Bon, il y a un moment, ils étaient un peu à la rue.
Ouais, mais là, ils étaient bien sur les 2-3 derniers Grands Prix. Tu vois, ils avaient tout mis en place.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques temps, ils étaient à la rue. Donc tu te dis, bon, t'as des regrets, mais on va dire un peu plus structurel. Mais là, clairement, là, ils ont. T'as l'impression que là, ils peuvent refaire de très belles choses. Il y a Monza, il y a Baku, où tu te dis, bon, que s'ils n'ont pas un aileron tout plat, McLaren, c'est peut-être pour Charles. Donc, ouais, là, on n'en attendait plus. Charles fait un très bon week-end. Lui, dans son baquet, c'est propre. Et sa course, Arnaud le disait au début, c'est sûrement la plus propre des pilotes. Et donc, du coup, bah ouais, après, tu regardes le classement et tu te dis, bon, bah, c'est pas assez. Puis après, tu regardes le classement constructeur et tu te dis, ah, bah, finalement, eux aussi peuvent l'avoir encore, hein, parce qu'ils ne sont pas si loin de McLaren non plus. Donc voilà. Et pour Carlos, course assez solide en fait, parce qu'il part d'un peu loin.
Bah il part 10, ouais.
Donc
il finit 7.
Il se débrouille pas trop mal, mais trop insignifiante quand t'es la Scuderia, quoi.
C'est clair qu'il y avait de la place, et on l'a bien vu, hein, puisqu'il y avait 20 secondes, il y avait de la place entre Norris et Verstappen. Et là, il aurait dû y avoir au moins une des Ferrari.
C'est ça, exactement. Voilà. Ils sont trop loin.
S'ils étaient bien qualifiés.
On va l'écouter, Charles Leclerc.
D'un côté, je suis plutôt content de la course parce que le premier stint, on a perdu énormément de temps. On était derrière Hülkenberg et Alonso et c'était très difficile de doubler. Et le deuxième stint, on a fait un très bon deuxième stint, mais bon, c'était pas suffisant pour revenir. Donc bien sûr, un petit peu déçu après hier. En regardant les datas, oui, il y avait un petit peu de pneus, mais il y avait aussi un petit peu de moi au premier virage qui a bloqué. Et aujourd'hui, ça a fait qu'on était dans une position beaucoup plus difficile pour revenir. Donc des fois, ça se tient à très peu. Sur un tour en Q3, ben, on peut passer d'un très bon week-end à un très mauvais. Du coup, ça nous a mis un petit peu en difficulté pour aujourd'hui, mais bon, on a quand même maximiser le résultat, donc il faut qu'on soit fier de la perfo aujourd'hui.
Voilà, il est, oui, globalement.
C'est toujours ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il se cachera jamais. Voilà. C'est très très souvent qu'il te dit, bah ça, ouais, c'est l'équipe, mais ça, c'est moi. Ça, c'est cool. Ça, je trouve ça frais. Ouais.
Et d'ailleurs, les qualifs, si on y revient, bon, ils se piègent les deux, puisque c'est le pauvre Sainz qui sort, il se met dans le mur, donc drapeau rouge. Du coup, il n'y a plus qu'une tentative derrière, puisqu'il n'était que deux à avoir réalisé un temps pas suffisamment significatif, mais avant le crash de Sainz. Et ça piège Charles, qui sort de la piste et qui voit son temps annulé.
Ouais.
Donc, ils partent 9-10, voilà, tout est dit. Et en fait, ils auraient dû partir, moi je dis 3-4, 3-4-5. Mmh. Et là, ils finissaient, il y en avait au moins une sur le podium, comme on l'a dit.
Ils sont à combien,
tout.
Là, les copains de Ferrari au
75
points.
Ils sont pas si loin. Ouais.
Et ils sont à 34 points seulement de Red Bull. Tu vois, je serais pas étonné. Max, champion du monde, McLaren 1, Ferrari 2 au classement des constructeurs, et 3 Red Bull.
C'est possible.
Je suis d'accord avec Arnaud à 100% là-dessus. Ouais. Je prends le même
pari. Ce qui est lourd de conséquences, c'est vrai qu'on a tendance à l'ignorer, mais en termes de capacité budgétaire et de sous que tu touches au classement des constructeurs, c'est très important les écarts.
C'est des paquets de dollars là. Là, c'est des millions de dollars, voire des dizaines de millions de dollars.
Là, c'est très très loin d'être.
Mais inversement, ça est moins de temps de soufflerie, moins de temps de. Voilà.
Oui, de développement.
Ah ouais. Oui, mais enfin, bon, ça vaut quand même. C'est mais bon, mieux d'être deux que trois. Ouais.
On préfère les bifetons à la soufflerie.
Oui.
Qui c'est qui veut parler d'Alpine sur ce Grand Prix, le petit Pulto Alpine?
Alors, c'est pas moi.
C'est pas moi non plus.
Allez, mettez le dernier.
On peut pas parler de Franco Colapinto?
Ouais, non mais Jean-Luc. On peut le faire. Jean-Luc le fait pas, Alpine. T'as déjà pris pas mal d'amendes là sur les gros mots. Donc on va switcher.
Je vais être poli.
Non, mais enfin, rapidement, je rappelle les positions finales. Mais Esteban Ocon termine 13e, Pierre Gasly 17e. Bon, les deux disent que de toute manière, ils sont pas rapides.
Le visage suffisait.
Ce que je voulais dire, c'est les interviews d'après-course, ils t'en apprennent plus que tout. Enfin non, la course déjà en elle-même, mais la course du coup, on les voit plus trop, ils sont au fond. Mais à la fin, quand il dit « alors en fait, on a tenté un truc qui n'a pas vraiment de sens, mais on l'a tenté parce que de toute façon, c'est la meilleure option », tu mesures un peu le gouffre dans lequel l'écurie française, si on peut encore dire ça, est en ce moment.
On peut encore, parce qu'il y a encore un moteur français.
Voilà, mais donc voilà, est-ce qu'avec l'unité Mercedes, ça ira mieux en course? Mais bon, moi, comme dit Jean-Luc, il y aura plus trop de saveur. Enfin, ça sera plus l'écurie française.
Mais tu parlais des interviews. On n'avait pas prévu de le diffuser, mais grâce à notre excellent producteur Romain Leroutier, Pierre Gasly qui réussit une belle sortie des stands et qui s'intercale. Allez, vas-y.
Allez, hop.
Non, ce qu'on a tenté, c'était de rester dehors pour bloquer les autres et qu'on puisse rattraper avec Esteban derrière. Mais malheureusement, c'était me sacrifier pour finir dernier. Donc on a essayé, malheureusement, ça n'a pas marché. Fondamentalement, le problème, c'est qu'on est juste trop lent. On se retrouve à essayer des choses qui sont... je sais pas combien de tours on a fait en médium, à la fin je perdais 4 secondes par tour. J'ai pas vraiment les mots parce que c'est des choses qu'on doit avoir en interne.
Il a fini avant-dernier. Hein.
Non, mais on a quand même bien fait de le diffuser ce son parce que je me rappelais plus ce matin quand je l'ai écouté, mais c'est vrai qu'il est au bout du rouleau.
Ah ouais, la dernière les phrase, deux, là, hein. Tu te dis si ça continue, il pleure.
Non, c'est non, puis, terrible. Bon, au niveau des perfs, alors c'est ce que je rappelle quand même toujours hein, parce que. En fait, ils ne sont pas si loin que ça. Ils sont à une seconde. C'est ce que je viens de vérifier. Je n'ai pas de mérite. En Q1, et une seconde et une seconde 3, pour être précis. Bon, c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Et quand tu as 12, 15 voitures en une seconde, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Pierre passe à la trappe en Q1. Et puis, Esteban parvient à passer en Q2. Mais là, après, il reste sur le carreau. Donc, il y a un moment où...
Ouais, mais Jean-Luc, il te dit quand même qu'il perd 4 secondes au tour sur la course en médium.
Ah, oui. Non, mais c'est affreux. Non, mais ils sont nulle part. De toute façon, on voit même pas s'il reste de la lumière dans le tunnel là pour eux, en tout cas c'est pas la sortie, c'est l'entrée, c'est qu'ils sont retournés. Non mais sérieux, ça fait mal au cœur une nouvelle fois, parce qu'il y a encore plein de gens, moi je les appelle Renault, hein, tant pis, on peut les baptiser demain Choucroute Garfunkel, ça changera rien. Non, parce que là on a dit Alpine, pourquoi pas, hein, on peut mettre Métro dessus ou Tesla, pourquoi pas. Non mais je veux dire, c'est ils sont en train de perdre leur âme, vraiment, et ça c'est grave, et c'est la Formule 1 française qui est en train de sombrer avec eux.
C'est toute la démonstration, ça te prend énormément de temps pour arriver au plus haut niveau. On a vu quand même qu'était Renault, on prend au départ à Bitbull, tout ça, Ricciardo, puisqu'on parlait quand
bien
il
sûr,
gagne.
Bien sûr.
Petit à petit, tu sentais que le projet était crédible, tu arrivais à attirer justement un Ricciardo qui quand même sortait. Il sortait où ? C'était avant Honda, avant McLaren. Il était chez Red Bull.
Et
c'est après qu'il a fait McLaren.
Voilà.
Donc tu attires quand même un pilote qui avait énormément la cote avec certains gros contrats.
Avec
mettant
7 victoires de mémoire.
Exactement.
6 à l'époque.
Et puis, c'est tellement rapide de tout déconstruire. Et on voit là, c'est la deuxième pire équipe.
Quand c'est un poulet sans tête, hein, comme on l'a dit, là, les deux dernières années, là, c'est une caricature. Enfin, quand tu perds comme ça tous les dirigeants les uns après les autres, parce qu'effectivement, faut un projet, faut une méthode, faut les gens. Enfin, après, c'est du boulot. Et puis, Fred Vasseur l'a dit en arrivant chez Ferrari, et lui, on sent bien, là, aujourd'hui, son influx, et on va encore le sentir mieux, parce que c'est pas fini, l'année prochaine ou l'année d'après, parce qu'il faut faire un état des lieux, un constat objectif, et puis après, il faut dire, les gars, on va aller là, réunir tout le monde, après, malheureusement, éliminer ceux dont on pense qu'ils ne sont pas du niveau, et faire venir ceux, et ça prend du temps, parce qu'il y a le jardinage, hein, on le sait bien, pour un paquet de... Voilà. Donc, malheureusement, on est à l'opposé de tout ça.
Et puis quand tu es à la rue pour attirer les bons, c'est très compliqué.
Pour redresser la barre, c'est quand même compliqué.
C'est un cercle vicieux.
Quand tu vois la différence d'évolution de McLaren, McLaren, Alpine, j'avais pas l'impression que c'était si loin il y a 2-3 ans.
Bien
hein
sûr,
on est d'accord.
C'est
hein
évident. Donc quand tu vois. Avant les nouveautés de l'Autriche l'an dernier.
Mais même, c'est ça, même il y a encore un peu plus d'un an.
Il y a un
début
an
de saison l'année dernière, il est
ouais, c'est ça, tu vois. Je disais 2-3 ans, mais même il y a un an et demi. Donc,
début de saison 2023.
Donc t'imagines la trajectoire des deux écuries, c'est quand même assez dingue. Parce que là, moi, j'ai l'impression que Alpine a un bilan médical nettement moins bon que toi, mon Jean-Luc.
Je le crains, mais je te dis, ça fait mal au cœur. C'est toujours bon, on en plaisante parce que. On va pas se pendre, mais ça fait mal au cœur, sincèrement, pour tous les gens qui donnent le meilleur. Déjà pour les deux pilotes, parce que c'est les deux qu'on voit. Eux, ils n'ont pas perdu leur talent, ni leur pointe de vitesse. Mais il y a un moment, tu as beau te motiver, avec une trapanelle, tu ne peux pas faire de miracle. Hein. Mm-hmm. Et puis en plus, il y a eu un certain nombre d'erreurs. On l'avait vu, de stratégie. Enfin, si tu veux, c'est la spirale infernale. Tu as une spirale du succès, et McLaren est carrément dedans, ça t'aspire vers le haut, et puis t'as la spirale de l'échec, et là, parce qu'il faut savoir que, puisque maintenant c'est une écurie anglaise, hein, pour être clair, tout se passe là-haut à Enstone, les mecs ils s'en vont, ils traversent la rue, et puis c'est tout, hein, faut le savoir. Hein.
Ouais. Mais c'est pas grave, les gars.
Le cadre de Viry-Châtillon,
et
France,
le savoir-faire, enfin je sais qu'il y a
il va y avoir l'effet Flavio-Briator, l'effet Briator, ça arrive là, avant la fin de
écoute,
saison,
ce que je disais, avec cet humour caustique que vous aimez, Flavio, il a parfait le coup, là, parce qu'il aurait pu mettre Ocon ou Gasly dans le mur.
Ouais. Mais elle n'aurait pas fait première. Rigolait. L'autre n'aurait
non,
pas fait première quand
non,
même.
Non, mais il aurait fait 12e.
C'est ça.
Faut qu'on revienne quand même sur l'histoire aussi de ce Grand Prix de Singapour. C'est Daniel Ricciardo. On en parlait. Arnaud, qu'on annonce partant, remplacé très certainement par Liam Lawson. Déjà, on va l'écouter, Daniel Ricciardo, parce qu'il était vraiment très, très ému au moment de répondre à la presse. Tu sentais que c'était, c'était ses derniers coups de volant en Formule 1.
Le week-end avait très bien commencé, mais finalement ça n'a pas été. Pendant la course, nous avons essayé différentes stratégies, mais sans succès. Nous sommes rentrés quelques tours avant la fin pour prendre le meilleur tour. Un tour pour la gloire, beaucoup d'émotions et d'épuisement après cette course. C'est une belle bataille entre Max et Lando. Et si ce point du meilleur tour s'avère crucial, je sais que Max est un homme bien et qu'il m'offrira un beau cadeau à Noël.
Voilà, il termine son...
Daniel
son
ou la polémique, il faut choisir, ouais. Hein, parce qu'il y a les deux. Hein.
Il termine avec un petit « je t'aime » là, en français, Daniel Ricciardo. Non mais parce que voilà, il prend le point du meilleur tour à Lando Norris et clairement, il dit qu'en fait, il fait le choix de Max Verstappen alors que c'est pas la même écurie, Arnaud. Donc forcément,
Max,
ça fait débat.
Et qu'il a défendu, hein, en un mot, qui a essayé de le défendre avec des mots. Quoi.
Après, bon oui, parce qu'il y a un partenariat évidemment entre Vécart et Red Bull, il y a beaucoup...
Ils ont été ensemble.
Ils ont l'air de bien s'aimer.
C'est clair.
Oui.
Ils s'apprécient humainement, en plus, je pense vraiment. Non, puis sincèrement, que les menaces sur le baquet de Daniel étaient évidemment de plus en plus présentes. Hein. On se demandait même s'il allait rouler là, à Singapour. Il a roulé, mais bon, on a compris quand même à travers les mots que c'était probablement son dernier. Puis il y a Liam Lawson qui est vraiment, lui, comme un charognard sur la planche.
Le Néo-Zélandais qui remplace l'Australien, en plus.
Absolument.
Mais le truc de Ricciardo, moi je trouve que c'est un gentleman, c'est quelqu'un qu'on adore voir, ouais. Parce qu'il dégage quelque chose, il a du charisme, mais c'est aussi un pilote qui performe plus et c'est vrai, il se fait battre par ses coéquipiers. Je regardais, voilà, il y a 2020, l'année Covid où il fait 5e et chez Renault. Après, il passe à McLaren, mais à chaque fois, il est battu par son coéquipier et c'est un pilote qui performe plus. Et on sent aussi, je ne sais pas s'il y a de la lassitude. Je suis pas sûr parce qu'il est encore là. Il aurait pu arrêter, il aurait pu ne pas retrouver d'écurie, mais voilà, c'est là aussi la dure loi. Il n'y a que 20 pilotes dans le monde et faut performer.
Et la référence, c'est toujours ton équipier. Et tu as raison. Bon, il y avait eu cette victoire qu'il avait, j'allais dire, sauvée chez McLaren, puisque la victoire, c'est lui qui l'avait remportée, la première. Hein, alors que la voiture n'était pas encore à ce niveau-là. C'était à Monza, hein, si je me rappelle bien maintenant. Bon, 8 victoires en Grand Prix, là aussi, c'est quand même un palmarès tout à fait. Je crois qu'il en est à 257 participations également. Bon, on va dire que c'est quand même quelqu'un qui a pesé. Mais malheureusement, Daniel, il lui a manqué, il l'a dit, hein, je crois, dans un de ses propos, qu'il lui a manqué un tout petit peu quelque chose pour être un number one. Hein. Il n'a jamais véritablement été dans une écurie en mesure d'être le numéro un ou de s'affirmer comme le numéro un.
Qu'est-ce qu'on retient, Louis, là, de Ricciardo ? Moi, franchement, c'est la personnalité du gars que je retiens. Alors, le pilote, c'était bien, mais sur les dernières années, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu vraiment la valeur de son réel niveau. Par contre, le gars, le perso, il était quand même chouette dans le paddock.
Oui, bah toujours. Il est hyper cool, souriant. Même quand ça allait très mal à McLaren et qu'il faisait de la peine devant les médias, il essayait toujours quand même de garder le sourire. C'était tout à son honneur, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait de la peine parce que j'adorais son style chez Red Bull, ses victoires. Faites-vous le best-of des victoires de Ricciardo chez Red Bull, mais le nombre où il fait un dépassement avec un freinage, mais c'est même plus tardif, c'est dans le virage qu'il freine, c'est incroyable. Il arrive à arrêter la voiture, il ne bloque pas les roues, il passe devant. Et ça, je me dis, mais quand ça a disparu, pourquoi ça disparaît parfois dans une carrière ?
C'est fou, on dirait qu'il est mort
magnifique.
Comme on en parle, mais c'est une petite mort.
C'est une petite mort, t'as raison.
Comme disent les Finlandais, je crois que c'est la grinta, hein. C'est eux qui disent ça. C'est cette espèce de hargne dont on disait que Piastri l'a, par exemple, et ça, tu l'as ou tu l'as pas. Tu arrives, tu l'as dans ton baquet, au départ, et tu peux pas l'acquérir, ça. Alors, tu peux la perdre, malheureusement. Il a 35 ans, on l'a dit, 257, et puis un peu usé, il a pris quelques coups sur le casque quand même. Sa situation là est précaire depuis le début de la saison.
Parce que tu sens usé par le milieu,
ouais,
la F1.
Ouais. C'est dur à vivre. Hein.
Je pense qu'il y aura eu un. Je pense que Renault, bon, ça a été un échec dont il aurait pu. Enfin, un semi-échec dont il aurait pu se relever.
Réussite, ouais.
Pas une réussite.
C'est lui qui a décidé de partir.
Et puis on s'en rappelle, il y avait pas un refus d'affronter Verstappen, mais presque. Alors lui, il vivait un sentiment d'injustice parce qu'il y avait le chouchou et lui, en gros. Mais t'étais quasiment au meilleur endroit pour réaliser ton rêve. Hein. Est-ce qu'il fallait partir cette fois-là ? Il a choisi de partir. Peut-être aussi un peu le miroir aux alouettes, le gros contrat numéro 1.
Ça, c'est clair.
Cyril, avec son meilleur accent, qui lui a sûrement vendu un projet alléchant.
You be the first pilot for us.
Voilà. we will win every races.
we get a tattoo if you win a race.
mais voilà. Et puis après, je pense, en revanche, que la je sais pas, c'était presque un burn-out. Enfin, ce qui lui est arrivé à McLaren, en fait, c'est que derrière, il aurait pas pu. Il a sa petite mort, elle est peut-être déjà à McLaren.
Oui,
là.
Oui,
c'est là qu'on a perdu le Daniel Ricciardo dont je vous ai parlé au début de mon propos. Celui de Red Bull.
S'était cassé.
Et je me demande, parce que pour avoir vu un peu, tu as eu quelques épisodes Netflix, il est tellement attaché à son pays, l'Australie. Et c'est vrai que tu en es très loin. Quand tu es européen, que tu vis à Monaco, etc., ou ailleurs, c'est plus facile quand. Chez toi, c'est l'Australie. Hormis quand tu vas à Melbourne, t'es content, mais après, tu vois rarement ton pays. Donc, je pense qu'il doit avoir cette lassitude-là. Et Nico, t'en parlais sur ses 8 victoires. Je regardais, c'est quand même des beaux grands prix.
Jean-Luc, t'as parlé
de Monza. Il a Monaco, il a Sepang, il a Spa, il a le circuit Gilles de Villeneuve. C'est des beaux circuits, tu vois.
Mais Monaco, il a une histoire, puisque l'année d'avant, on lui foire sur Monaco.
Mais ils n'ont pas les pneus, c'est ça. C'est là qu'ils n'ont pas le pneu dans le temps.
Ils lui disent rentre, ils n'ont pas les pneus.
On avait dit que c'était fait exprès.
Des fois, on peut se demander. Enfin, il y a d'autres équipes où ça a été fait exprès, mais je ne citerai pas maintenant. Une autre fois.
Bon, on va lui souhaiter une bonne retraite à l'ami Daniel. On ne sait pas, mais bon, on imagine qu'il ne sera pas là à Austin dans un mois. Il aura eu une belle petite carrière. On a fait le tour, les gars. Je crois qu'Arnaud, tu voulais parler un peu de Franco Colapinto, quand même, qui a encore une fois bien tourné. 11e.
Impressionnant, hein.
Ouais, franchement, il continue d'impressionner.
Bah écoute, on n'arrivait pas à le rattraper. En tout cas, tous ceux qui étaient derrière.
Tsunoda, Ocon, Stroll.
Et même Perez à un moment. Quasiment sans faute. Hein,
franchement, être comme ça, juste au début des points. Enfin, écoute, sur les changements de pilotes, on voit aussi que. Et c'est peut-être dommage de faire un peu cette vague de jeunesse en plein milieu d'une saison parce que tu changes. Mais on voit effectivement que voilà, il y a des jeunes pilotes, c'est bien de leur donner leur chance.
Mais vous savez, ça va être le leitmotiv à chaque paddock RMC. Il manque 6 baquets en Formule 1. Non, mais sérieusement, je me répète lourdement, il y aurait 26 voitures sur la grille, les 6 baquets de derrière iraient à des jeunes pilotes et on aurait l'opportunité de tester de jeunes talents et ce serait formidable. Je suis désolé, ils sont recroquevillés là comme des vieux crabes sur leurs 10 parts. Et Andretti était là, Andretti pourrait être là. Et puis il y en a un ou deux autres qui pourraient venir aussi. On ne veut pas partager le gâteau, bon, c'est une histoire de gros sous, mais c'est contraire, à mon sens, à l'esprit sportif et surtout à la révélation de jeunes talents, puisqu'on est obligé de virer quelqu'un pour leur faire une place. Donc c'est QFD. Je voulais dire un mot aussi, puisque Nico, si tu le permets, quand même, bon, d'Alonso qui quand même tient la barre et tient la rampe d'Aston, 8e. Il est là, bon, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais surtout de Nico Hülkenberg avec As. Ah, c'est bien, hein. Il se qualifie vachement bien. Et puis après, bon, bah, on voit qu'en course, il a un rythme évidemment inférieur aux autres. Hein. Mais il part 6e, il termine dans les points une nouvelle fois. C'est vachement bien. Il termine devant Perez qui s'attaque à lui en fin de course, qui ne parvient pas à le dépasser. Bah, il fait du bon boulot. De plus en plus, on commence à se dire que lui, avec Audi, avec Sauber, bah, c'est pas mal. Hein. Il a 37 ans, mais il a du métier. Et alors lui, il a toujours la niaque. Hein.
Son premier podium un jour, peut-être.
Peut-être, c'est vrai. Je sais pas combien de grands prix est là maintenant, désormais. Mais bon,
Je vais te dire ça.
On a du temps. Vous voulez que je mette une petite musique d'attente?
Écoute, il est pas loin des 220.
Pour moi, c'est ça. Il est à 220 ou 221.
C'est ça, je crois 221 si c'est à jour le tableau.
Et ce qui est pas mal, alors là aussi, je vais vous rappeler un truc, c'est que Jacques Lafitte, qui à un moment a co-détenu le plus grand nombre de Grands Prix, ça c'était dans les années 80, au moment de son accident à Brands Hatch, 174 Grands Prix. Ouais. Alors vous allez me dire, c'est qu'aujourd'hui, il y en a 24, et à l'époque, il y en avait 15 ou 16 par an. Voilà, tout est dit.
Les gars, merci beaucoup, on s'est régalé pour débriefer ce Grand Prix de Singapour. On se retrouve après les States pour la prochaine course. Enfin non, on se retrouve tous les lundis, mais c'est vrai que le prochain Grand Prix, débrief de Grand Prix, ça sera après le week-end du 20 octobre. Si vous avez aimé cet épisode du Paddock RMC, ce podcast, une petite note, je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est super important. Jean-Luc est très bien noté depuis le début de la saison.
Très bien. Vous mettez deux Stetson et trois paires de bottes. Et alors, avec des éperons, puisqu'on sera hostile.
Donc continuez à lui mettre des bonnes notes et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
Salut à tous.
Ciao.
Le paddock RMC.